Chers amis, bonjour. La parole de Dieu vient nous éclairer jour après jour. Elle nous nourrit, elle nous fortifie, en particulier dans les épreuves que nous traversons. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans notre parcours aujourd'hui. Ensemble, mettons-nous à l'écoute de cette parole. Comme la semaine dernière, nous avons vécu du lundi au mercredi avec des personnages ou avec des situations de l'Ancien Testament. Le jeudi et le vendredi, nous cheminons avec les apôtres après la résurrection de Jésus. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir ou peut-être d'approfondir ce qui s'est passé pour Paul en Galatie. Nous le découvrirons à partir des trois premiers chapitres de la lettre que Paul écrit aux Galates. La Galatie, c'est une région qui se trouve au nord de la Turquie actuelle. Paul y a évangélisé lors de son deuxième voyage. Il y est passé assez rapidement avant de rejoindre l'Europe où sa mission a pu rencontrer quelques succès un peu plus intéressants. Toujours est-il qu'il a laissé en Galatie les germes d'une communauté chrétienne, fervente et fragile. Pourtant, quelques mois plus tard, il reçoit des nouvelles de cette jeune communauté. Il découvre que d'autres missionnaires sont passés après lui en Galatie. Ces missionnaires, des chrétiens, ont affirmé aux Galates que pour vivre pleinement leur foi chrétienne, il fallait obéir à l'ensemble des prescriptions de la loi de Moïse, et notamment la circoncision. Les Galates font confiance à ces missionnaires et commencent à appliquer, même avec un certain zèle, ces nouvelles consignes qu'ils reçoivent. Mais Paul, lui, en l'apprenant, est furieux. Le ton de la lettre qu'il envoie aux Galates est très dur. Par exemple, il y a un moment, il dit « Galates stupides ! Qui vous a ensorcelé ?» Et dans sa lettre, Paul défend ses positions. Jésus, qui est pleinement juif, est venu donner aux hommes la liberté perdue par le péché. L'enjeu, c'est de vivre cette pleine liberté. La loi a été donnée comme un pédagogue qui conduit au Christ. La loi n'est pas un objectif en soi. À revenir aux prescriptions rituelles de la loi, il y a un vrai risque à se détourner de cette liberté et finalement à s'appuyer sur notre respect scrupuleux de la loi, plutôt que sur notre foi en Jésus-Christ. Alors pour illustrer son propos, Paul évoque un événement qui s'est produit quelques mois, ou quelques années peut-être, plus tôt, à Antioche. Antioche, c'est la ville d'où est partie la mission vers les païens. Et Paul le raconte dans le chapitre 2 de la lettre aux Galates. « Quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il était dans son tort. » En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Pierre prenait ses repas avec les fidèles d'origine païenne. Mais après leur arrivée, il prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart, par crainte de ceux qui étaient d'origine juive. Tous les autres fidèles d'origine juive jouèrent la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. Mais quand je vis que ceci ne marchait pas droit dans la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives ?» Voilà, visiblement, il y a eu de l'animation dans la communauté chrétienne. Paul s'est bien disputé avec Pierre, un peu avec Barnabé, et on imagine qu'effectivement l'ambiance devait être assez chaude. Et on voit que finalement cette situation qui a été vécue à Antioche se reproduit d'une certaine manière avec ce que Paul vit avec les Galates, même si c'est à distance, puisque c'est par lettre. Il faut dire effectivement que les chrétiens devaient répondre à de nombreuses questions. Et la plus délicate des questions qui se posaient, c'était probablement celle de l'accueil des païens dans la communauté chrétienne. Est-ce qu'ils devaient, pour devenir chrétiens, se soumettre à l'ensemble de la loi juive, notamment la circoncision, et puis les règles de séparation entre juifs et non-juifs dans les repas? Ou est-ce que ces règles ne concernent pas les païens? Pour Paul, on imagine le côté dramatique de la question. Toute sa mission a été fondée sur le principe de ne pas imposer la circoncision aux païens qui se convertissaient. Il y a un vrai risque, soit de fragiliser toutes les communautés qui sont fondées par Paul, soit de voir même un vrai schisme, une séparation entre les deux camps dans l'Église naissante. Paul, pourtant, n'a pas abandonné ses convictions. Il n'a pas abandonné sa conviction que la foi était vraiment le cœur de la conversion d'un chrétien et de sa relation à Dieu. Il n'a pas abandonné sa conviction que la loi n'était qu'un moyen d'accès à la foi. Mais Paul n'a jamais non plus abandonné son souci plus profond pour l'unité de l'Église. Paul, par exemple, a continué à faire des allers-retours réguliers à Jérusalem pour assurer l'unité de ses communautés avec l'ensemble de l'Église. Parce que, dit-il, Galates 2:2, je ne voulais pas risquer de courir ou d'avoir couru en vain. Et effectivement, la question sera résolue quelque temps plus tard lors d'un grand rassemblement à Jérusalem. On parle parfois du premier concile. Dans ce rassemblement, Jacques, Pierre et Paul, et puis les autres apôtres, se mettent d'accord sur les manières de faire qui étaient applicables pour toute l'Église sur la question de l'intégration des païens. Beaucoup de situations d'épreuves que nous avons rencontrées jusqu'à présent concernaient des épreuves extérieures, l'exil, une défaite militaire. Il y avait aussi des difficultés intérieures, la maladie ou le découragement. Avec Paul, finalement, c'est une situation un petit peu intermédiaire, mais tout aussi terrible, celle de la désunion de la communauté chrétienne, désunion d'une communauté qui est si chère au cœur de l'apôtre. Mais lorsqu'on souffre de la part d'ennemis, on peut le comprendre. Mais lorsque ces souffrances sont imposées de l'intérieur de la communauté, par ceux qui sont vos amis, même vos frères, quel découragement! C'est sur ce double front que Paul doit lutter. Personnellement, il s'agit pour lui de ne pas se décourager devant ces attaques qui lui viennent de l'intérieur de l'Église. Et puis, positivement, il doit encore lutter pour continuer son œuvre d'évangélisation. C'est là, je crois, qu'on peut découvrir la résistance de cet homme. On sait que, physiquement, Paul a eu une sacrée endurance pour parcourir des milliers de kilomètres dans des conditions éprouvantes, pour subir des coups, des arrestations, des bastonnades, des naufrages. Mais on voit aussi sa résistance intérieure, résistance qui lui vient certainement du feu de l'Esprit-Saint, résistance qui le conduit à traverser toutes les adversités sans abandonner, sans jamais se décourager. Tout au long de notre vie, nous voyons des choses changer. Notre famille évolue, la société évolue, les conditions de vie dans lesquelles nous sommes, l'Église évolue aussi. Certaines évolutions suscitent en nous de l'enthousiasme, peut-être en particulier les évolutions auxquelles nous avons contribué. Mais il y a aussi les évolutions qui se font malgré nous, dans un sens opposé à ce que nous aurions pu espérer. La tentation, dans ces cas-là, ça peut être de se désolidariser, de tracer son propre chemin, de se réfugier dans son propre groupe, sa communauté, avec un regard de mépris pour ceux qui ont pris une direction différente. Paul nous encourage, par sa vie, à garder justement le courage dans les situations de désaccord, et surtout la passion de la communion. Seigneur, aide-moi à être aujourd'hui, dans les groupes, dans les communautés où je suis, un artisan de la communion. L'une des faiblesses du monde dans lequel nous sommes, c'est peut-être la difficulté à assumer les désaccords. Pour diverses raisons, les désaccords entre nous conduisent soit au conflit, soit à l'ignorance mutuelle. Quel dommage! Il est bon de fréquenter, d'échanger, sans compromission et sans relativisme facile, avec des personnes avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Alors aujourd'hui, je pourrais peut-être faire une démarche pour échanger avec une personne de mon entourage avec laquelle je sais que j'ai des désaccords. Alors, le but n'est pas nécessairement de résoudre le désaccord, mais de permettre l'échange et peut-être même, pour une part, la communion. Belle journée avec Dieu.